parler, au risque de vous décevoir. Je ne vais pas tellement m'étendre sur les élections municipales. Même si l'agitation politicienne, elle continue, hein, parce que vous avez vu que dans les grandes villes, il y a un deuxième tour. Hein, donc, nous, on pense en effet que toute cette agitation politicienne, elle est quand même bien dérisoire au regard de l'évolution de la société et en particulier au regard de l'évolution guerrière, hein, de la société. La guerre, là, elle se généralise. Hein, vous savez, au Sahel, en République démocratique du Congo, la guerre, elle date de tellement longtemps qu'on n'est même plus capable d'en dater le début. 2019, hein, c'est le début du ravage en Somalie, au Soudan. On a eu ensuite la guerre en Ukraine, sur le continent européen, hein, de retour. Après ça, il y a eu ce qui s'est passé, bien sûr, à Gaza. Hein, et qui continue quand même, parce que aujourd'hui, Gaza, comme la Cisjordanie, sont en train d'être rayés de la carte. Voilà. Et puis, depuis le 28 février, eh bien, on a la guerre qui a été déclarée par les États-Unis et par Israël contre l'Iran, qui s'étend maintenant dans tout le Moyen-Orient, qui ravage le Liban, hein, parce que vous avez vu que là, c'est quand même une situation extrêmement difficile au Liban, hein, où on a un gouvernement israélien qui promet de transformer le sud Liban en bande de Gaza. Voilà, au moins c'est clair, c'est net, hein. Donc déjà 1000 morts, dont 200 enfants, 1 million de personnes déplacées qui vivent dans le dénuement, hein, sous des tentes, vous avez vu un peu les images. Donc oui, et on voit tout un engrenage autour de cette guerre, parce que on a appris, c'était hier ou avant-hier, hein, que Israël avait frappé le site de Natanz, hein, le site nucléaire Natanz. En riposte, l'Iran a frappé. Alors, plus petitement, parce que c'est avec leurs moyens plus petits, mais apparemment un site de recherche aussi nucléaire. Pendant tout un temps, les États-Unis nous expliquent que ça allait être très court, etc., et que jamais, hein, ils n'envisageaient d'invasion terrestre. Et puis, ils sont en train d'amener 500 marines. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? En tout cas, voilà, le doute plane. Enfin, on voit, hein, comment il y a un engrenage, en réalité, qui se met en place. Et puis, quand on voit tout ça, on ne peut que se dire que la guerre est devenue le fonctionnement normal du capitalisme en crise. Et que par bien des aspects, on est dans une troisième guerre mondiale. Et on y est, nous aussi. Parce que même si on n'est pas sous les bombes, hein, en fait, on a quand même notre gouvernement qui est hautement intéressé par la chose. Il explique qu'il a amené le porte-avions Charles de Gaulle juste, hein, pour défendre les bases militaires et respecter ses accords de défense avec les monarchies du Golfe. Mais pourquoi y a-t-il tous ces accords de défense avec les monarchies du Golfe? Parce qu'il y a des intérêts des capitalistes français dans cette région et parce qu'ils comptent bien les défendre. Et que même si pour l'instant, hein, le gouvernement prétend ne pas vouloir intervenir dans le détroit d'Ormuz, il finira par y être embarqué, en fait, tôt ou tard. Et on compte quand même déjà un soldat mort. Hein. Alors, le gouvernement dit, non, il n'était pas là pour cette guerre. Il n'était pas là pour cette guerre. Il était là pour faire la guerre contre le terrorisme. Il était au Kurdistan irakien. Bon, alors, mais en fait, il formait. Hein, ils formaient des combattants kurdes qui y compris sont un petit peu font partie aussi d'une possibilité, hein, pour finalement intervenir en Iran contre le régime. Alors vous voyez, tout ça en réalité montre qu'on y est engagé et puis tout le monde constate que cette guerre, elle a déjà déclenché tout un chaos économique, qu'elle a déclenché à nouveau un mini-crack énergétique, pétrolier, gazier, et que tout ça, ça va bien sûr provoquer à nouveau une flambée d'inflation, parce que vous connaissez la musique, hein, tout ça, ça se répercute. Hein, tous les prix, toutes les augmentations de prix se répercutent, hein, en chaîne. Vous avez même les agriculteurs qui expliquent qu'ils ne peuvent pas bosser sans l'engrais qui vient du Qatar, qui vient d'Arabie Saoudite et qui passe par le détroit d'Ormuz et dont le prix a flambé. Et les agriculteurs sont déjà en train d'expliquer que tout ça, ça va provoquer forcément une augmentation des prix. Donc voilà, de toute façon, on sait que d'abord, on a commencé à le payer en passant à la pompe et tout le monde a compris que ce n'était que le début. Que le début. À tout ça s'ajoute aussi le fait que l'argent qui doit être mis, qui va être mis dans l'armée est quand même astronomique. Hein. Alors là, on devrait tous se réjouir d'avoir un nouveau porte-avions à 10 milliards. 10 milliards, vous vous rendez compte? Les missiles qui sont balancés, parce que la France, elle balance des missiles en réalité dans la région, contre des drones iraniens, ils nous expliquent que les missiles, c'est entre 2 millions, 3, 4 millions à chaque missile tiré. Hein, vous vous rendez compte? Voilà, c'est des sommes astronomiques qui, bien sûr, vont manquer pour les hôpitaux, vont manquer pour l'éducation, vont manquer pour tous les services utiles à la population. Alors, on a déjà un gouvernement qui dit qu'on est surendetté et que, du fait de cet endettement, il faut accepter des sacrifices, il faut serrer la ceinture, etc. Mais demain, ça sera au centuple. Voilà. Tout ça parce que, en effet, ils sont tous en train de se réarmer jusqu'aux dents. Et il faudrait en plus qu'on applaudisse, que les engins de mort soient de plus en plus sophistiqués, qu'ils intègrent de plus en plus de technologies, parce que tous les jours, c'est le bourrage de crâne. Là, on est censé regarder les yeux émerveillés comment des sous-marins nucléaires vont pouvoir arroser toute une région. Enfin voilà, ils ont pour seul et unique horizon à proposer à la jeunesse la guerre. Voilà. Donc, je l'ai dit, nous, on n'y échappera pas. Et tout ça, ça va bien sûr provoquer de nouveaux reculs. Je voulais aussi dire que on a tendance à beaucoup personnaliser et à dire oui mais tout ça c'est Trump, tout ça c'est une question Trump, Poutine, machin, et puis finalement c'est une question de personne. Alors c'est sûr que Trump a fait des choix et pour que finalement l'impérialisme américain soit redouble d'agressivité. Ça, c'est sûr. Avec son style, je vais tous vous en foutre plein la gueule. Vous avez vu comment il a décidé de reprendre le contrôle de l'Amérique latine, comment il a réglé son sort à Maduro. Il a carrément kidnappé. Maintenant, il est en train de croupir dans une geôle new-yorkaise. Comment il est en train d'affamer Cuba. Alors, vous voyez ça aussi. Ils nous disent les armes, la guerre, la violence. À Cuba, ils ont balancé aucun missile. Aucune bombe. Mais vous avez vu comment ils acculent la population à vivre avec rien. Il n'y a plus une goutte de pétrole qui rentre aujourd'hui au Venezuela. Plus une seule goutte. Ils ont convaincu le Mexique d'arrêter toute livraison. Alors, le Mexique, c'est un pays libre, soi-disant. Il est libre, il n'est pas encore... sauf que la présidente du Mexique, elle a accepté. Elle a accepté, il n'y a plus qu'une seule goutte de pétrole qui rentre à Cuba, et du coup, il n'y a plus d'électricité, il y a des systèmes d'alimentation en eau, ils n'ont plus d'eau dans des quartiers entiers, mais vous imaginez vivre sans eau. Voilà, mais c'est ça qui se passe. Bon, et puis, c'est les privations alimentaires, pour les médicaments, etc. Donc, je ferme la parenthèse. Mais ils ne font pas la guerre à Cuba, vous vous rendez compte? Mais bien sûr que c'est une autre forme de guerre, ça. C'est une autre forme de guerre. Et ils l'arrêteront, c'est-à-dire ils permettront à nouveau aux Cubains de manger quand le régime cubain se sera mis à genoux. Voilà. Bon, alors donc Trump, il a cette politique-là. Il a cette politique de dire, en gros, tous les régimes qui ne sont pas à ma botte, qui résistent un petit peu, qui font preuve d'indépendance, je vais les faire marcher droit. C'est ça sa politique. Et il a saisi l'opportunité que l'Iran était affaibli du fait, vous savez, de toutes les suites de la guerre israélienne, du fait aussi d'ailleurs des contestations internes hein, pour dire, bah là, c'est peut-être l'occasion de leur régler leur compte. Donc oui, il y a des choix qui sont liés, certes, à des choix politiques de Trump. Donc c'est un fait. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que tout ça, c'est inscrit dans la situation des rapports de force capitalistes. Trump ou pas Trump, il y a une guerre, une concurrence à mort qui est livrée en ce moment entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté la Chine. Parce que la Chine, elle est devenue un concurrent qui menace le leadership américain dans plein de domaines. Les terres rares, l'intelligence artificielle, certaines matières premières, enfin bon, c'est une puissance qui est montante et qui s'impose sur certains secteurs. Eh bien ça, les États-Unis ne peuvent pas le tolérer. Il faut absolument qu'ils rognent les ailes de la Chine. Et ça, c'est une préoccupation de tous des banquiers, des financiers américains, des industriels américains, de l'ensemble de la bourgeoisie. Ça va bien au-delà de Trump. Et cette rivalité et cette guerre-là, si vous voulez, elle est présente depuis déjà des années et des années. Et au fond, c'est ça l'enjeu. Donc oui, indépendamment d'un tel ou d'un tel, dans le capitalisme, il y a une loi qui est que quand les rapports de force ne peuvent pas se régler de façon à la loyale sur le marché, eh ben on le règle par les armes. Voilà. Et ça, c'est une loi, c'est une nécessité. Et on ne peut pas se dire, oh, c'est un mauvais moment à passer, après Trump, il y en aura un autre, et puis après cette guerre, ben voilà. Non. On est dans une situation où le capitalisme et n'importe quelle entreprise, pour se développer, elle a besoin d'exporter. Les progrès sont tels que de toute façon, elle ne peut voir qu'au-delà des frontières. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils finissent tous par se marcher sur les pieds. Voilà. Et que finalement, aujourd'hui, toutes ces frontières, ça ne peut déboucher que sur une concurrence internationale redoublée. Et c'est cela qu'on a face à nous, en réalité. Voilà. Et bien sûr qu'on a un gouvernement qui jouera sa partition dans tout ça. Mais nous, ce qu'on veut dire, c'est que toutes ces guerres-là, justement, ce sont des guerres qui sont impérialistes. C'est une compétition entre esclavagistes pour savoir quel sera celui qui dominera et qui disposera du plus grand nombre d'esclaves. Voilà. Alors nous, on est du côté des esclaves, en fait, dans tout ça. Nous, on est l'objet de leur rivalité, de leur guerre. Et notre intérêt, c'est sûrement pas de dire « Ah ben, je vais prendre le parti du plus gros, ou alors même du plus petit, celui qui aspire à devenir gros, parce que c'est pas notre camp. » Voilà, donc dans toutes ces guerres-là, on peut être sûr que on va être utilisé, instrumentalisé pour des intérêts qui sont ceux, en effet, de la classe capitaliste, ceux des grands, de tous ces millionnaires, toute cette bande de rapaces et de criminels qui nous dirigent. Voilà, alors tout ça, c'est un gâchis effroyable, c'est un crime contre l'humanité, en fait. Parce que quand vous comptez le nombre de gens qui sont aujourd'hui dans ces régions de guerre, maintenant on est à des dizaines de millions de femmes et d'hommes qui voient leur famille décimée, qui sont déplacées, qui voient leur vie foutue par terre. Donc oui, on est dans une société capitaliste qui avance, qui continue de faire du fric, qui continue de prospérer. Là, dans le train, je lisais le journal. On a quand même un journal, aujourd'hui, le JDD, pour dénoncer, qui se réjouit du fait que les industriels de la défense français vont pouvoir faire du fric dans cette guerre du Moyen-Orient. Ah là, ils sont forts, eux. Ils sont forts. La guerre, elle est en train de se généraliser. On est en train de plonger dans une troisième guerre mondiale. Il faut applaudir, parce que nous, deuxième exportateur d'armes, on va pouvoir en exporter encore davantage. Voilà. Ça, c'est... Oui, on est dans un système qui continue d'avancer, de faire du fric au mépris de la vie humaine. Je pense que tous ceux qui... Voilà. On n'en est pas surpris. On sait très bien comment ce système il traite les travailleurs. On sait comment ils traitent les ouvriers. On sait comment ils ont traité tous les ouvriers de la sidérurgie. Hein, comment ils ont foutu leur santé en l'air, comment ils les ont virés, comment ils ont transformé une région entière en désert industriel, on le sait, en n'en ayant rien à faire de comment la vie elle va se poursuivre, comment elle va continuer. Et ça, c'est des trucs qu'on vit tous les jours dans les entreprises. Hein, ils en ont rien à faire de nos vies, de notre santé, de comment on peut avoir du temps avec notre famille. Hein, on est, pour eux, des coffres-forts sur pattes. Voilà. Quand tu vas te faire embaucher, hein, ils te regardent. Oh, c'est bon. Lui, avec lui, je vais faire du fric. Hein. Et puis, il acceptera des heures sup. Et puis, il reviendra le samedi. Et puis, je le ferai courir, hein, du matin jusqu'au soir. C'est comme ça qu'il nous voit. C'est comme ça qu'il voit les peuples opprimés. Hein. Donc, nous, il ne faut pas qu'on en soit surpris. Mais je veux conclure sur l'idée que, voilà, tout ça, ça doit nous convaincre que c'est un système qu'on a face à nous. Une classe sociale qu'il faut viser, à qui il faut contester le pouvoir. Et qu'on n'en est plus à se dire, cette société capitaliste, hein, c'est un problème de mieux répartir la richesse, c'est un problème de faire des lois où quand même on respectera un petit peu mieux les animaux, la terre, etc. etc. On n'en est plus là. On voit très bien que ce système, il est capable de tout démolir. Donc, plus que jamais, hein, eh bien, il faut réaliser que, voilà, il va falloir être capable de disputer la direction de la société à cette classe bourgeoise, à cette classe de financiers, d'industriels, de milliardaires, etc., qui ont déjà entre leurs mains, en réalité, tout ce qu'il faut pour changer la vie de tous les êtres humains sur cette planète. Parce que c'est ça qui est dingue. C'est qu'en réalité, les moyens pour que tout le monde vive dignement, pour qu'on coopère, pour qu'il y ait plus d'éducation, de santé, pour chaque être humain, ils existent déjà. Rien qu'un mec comme Musk, vous savez, le capitaliste donc américain, hein, qui est à la tête de Tesla, de X et puis SpaceX, il concentre entre ses mains 700 milliards de dollars, plus que le PIB de plein de pays, en fait. À lui seul, il serait en mesure de changer la vie de millions de gens. Hein ? Qu'est-ce qu'il en fait de son fric ? Bah, il s'en sert pour avoir encore plus de pouvoir, pour écrabouiller encore plus les travailleurs qui peuvent, hein, dont il extrait la plus-value, qu'il exploite, etc. Voilà. Et pour que sa fortune, elle double peut-être demain. Voilà ce qu'ils en font. Donc c'est une classe qui est devenue un obstacle, qui bloque le développement de la société. Alors même que ce développement, on le sent, il n'y a jamais eu autant de richesses, autant de moyens. L'IA, bien sûr que ça pourrait faire sans doute des merveilles, hein, l'IA, et encore des progrès. Mais entre leurs mains, ils vont en faire quoi ? Hein, ils vont améliorer, ouais, les sous-marins, les avions de chasse, ok, d'accord, super. Bon, donc voilà, nous, notre conviction, hein, c'est de dire, bah oui, les travailleurs, il faut vraiment qu'on se convainque qu'avec ces gens-là au pouvoir, on ne peut aller que vers du pire. Et d'ailleurs, ce développement, cette évolution, on la constate, le monde, il est de plus en plus barbare. Hein, donc voilà, nous, notre certitude, c'est que justement, les moyens pour le transformer, pour organiser les choses de façon collective, pour mettre au service de toute l'humanité, hein, tous les moyens techniques et les richesses, on les a. Mais ça sera en effet un combat, hein, pour les travailleurs d'arracher le pouvoir, d'organiser tout cela, de planifier, de se coordonner, et là, oui, il y aura un autre avenir à l'humanité. Mais ça, c'est un combat qu'il faut que les travailleurs, dont il faut qu'ils se saisissent. Et pour ça, comme l'a dit Mario, je pense beaucoup, hein, pour ça, il faut qu'on construise un parti communiste révolutionnaire. Et il faut que les travailleurs s'y engagent, et il faut aussi que la jeunesse, elle, s'y engage. Voilà. Je termine là-dessus, et on en discute.